m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. C'est l'une des plus grandes voix d'Afrique, chanteuse, autrice, compositrice. Fatoumata Diawara est aussi comédienne et elle met toute l'étendue de son talent et de ses émotions au service d'un spectacle qui sera bientôt à l'affiche du Théâtre du Châtelet à Paris, Le Vol du Boli. Musique de Damon Albarn, la figure de proue de Gorillaz et Blur, cheville ouvrière du collectif Africa Express, livret et mise en scène signée Abderrahmane Sissako, cinéaste mauritanien qu'elle connaît bien puisqu'il l'a fait tourner dans trois de ses longs métrages, dont l'inoubliable Timbuktu, film aux 7 Césars en 2015. Le Vol du Boli, c'est un opéra contemporain qui, par le biais de la musique, de la chanson, de l'image, de l'art dramatique, nous conte la relation complexe et si souvent cruelle, incomprise entre l'Afrique et l'Europe. Le Vol du Boli, c'est donc au Théâtre du Châtelet à Paris les 7, 8 et 9 octobre. Et vous m'en direz des nouvelles. Fatoumata Diawara.
Bonjour.
Bonjour Abderrahmane Sissako.
Bonjour.
Merci à tous les deux d'être avec nous. Ce projet Abderrahmane Sissako est à la base une commande du Théâtre du Châtelet, hein, à Damon Albarn. C'est donc lui l'initiateur du projet et c'est lui qui est venu vous trouver. Qu'est-ce qu'il vous a dit ?
Il m'a dit qu'il a très envie de faire un opéra sur l'Empire du Mandingue, parce que le livre L'épopée Mandingue de Djibril Sirniane qu'il a lu, livre-roman, hein, l'a beaucoup fasciné. Il est fasciné par le Mali, par la musique malienne. Donc il avait cette envie-là. Il se disait pas légitime, il voulait chercher quelqu'un de plus légitime, en fait,
oui,
pour faire cet opéra.
Mais cet opéra dépasse très largement Sundiata Keïta et,
oui,
et l'Empire Mandingue.
Oui, bon, j'ai dit oui sur le principe, hein, de faire un opéra, mais je voulais pas que me cantonner à l'Empire Mandingue. Je me suis dit, c'est peut-être bien d'ouvrir, parce que nous vivons aujourd'hui avec des crises, avec une situation politique, aussi une relation toujours pas apaisée. Donc le rôle de l'artiste, c'est de témoigner aussi son départ. Donc je voulais pas que ça soit que le passé.
Et c'est pour justement cette ambition politique-là que vous avez dit oui à un projet qui, a priori, vous tendait pas particulièrement les bras, parce que vous n'aviez jamais écrit auparavant de livret d'opéra. C'est tout à fait nouveau pour vous.
Tout à fait. Et j'ai d'abord dit tout de suite que j'ai jamais fait d'opéra et que j'y vais pas non plus, et donc peut-être que je suis pas la bonne personne. Mais si on me sollicite pour faire un opéra, premièrement, si je suis libre du sujet, j'ai dit oui. Deuxièmement, ce serait l'Afrique. Je sais pas quoi encore, mais ce serait l'Afrique et ce serait un opéra politique.
Donc vous pouviez pas refuser dans ces conditions-là, Abderrahmane Sissako?
Non, parce que lorsqu'un grand théâtre comme le Châtelet vous sollicite, c'est une façon de s'ouvrir aussi à l'autre, hein, de s'ouvrir à l'Afrique. Et donc j'ai saisi cette opportunité d'amener, voilà, ce continent qui est au cœur de, dans ce théâtre qui est au cœur de Paris, et donc l'Afrique. Voilà.
Et comment vous est venue l'idée du boli? Alors, avant de parler de l'idée, on va peut-être expliquer ce qu'est un boli précisément. Fatoumata Diawara, expliquez-nous à nos auditeurs qui n'auraient jamais entendu parler du boli, ce qu'est le boli. C'est très important dans la culture bambara.
Oui, le boli. Oh là là, je ne sais pas si je suis la bonne personne pour parler du boli, parce que les femmes n'ont même pas le droit de posséder le boli.
Ah, de posséder, oui, mais d'en parler
sur, oui,
si
c'est un fétiche, en fait, en gros. Oui, si on veut résumer brièvement, c'est un fétiche bambara. Sachant qu'en Afrique, il y a d'autres fétiches, mais qui ont d'autres connotations. Mm-hmm. Mais le boli est bambara, quoi, et du Mali, effectivement.
Donc, un objet sacré.
Sacré.
Voilà, que c'est aussi un objet de transmission, Abderrahmane Sissako.
Oui, oui.
De tradition et de transmission.
Oui, mais surtout, je pense qu'il est intéressant parce qu'il n'est plus en Afrique, il est au Cabronli. Donc, c'est ça la question.
Ce n'est pas n'importe quel boli, puisqu'il a été volé. Il a été volé en 1931. Par un homme de culture, hein, l'écrivain surréaliste français Michel Léris, au cours d'une mission ethnographique.
Le Dakar Djibouti, qui était une collecte d'œuvres, aussi de recherches ethnographiques avec Marcel Griol. Mais je dirais que, Léris était jeune, hein, et on lui a dit de voler, donc c'était pas lui vraiment le voleur, ouais, hein, on lui a dit d'aller, voilà. Donc,
mais vous le racontez sur scène, on va entendre un extrait du spectacle, c'est l'acteur François Sauveur, hein, qui incarne Michel Léris, et on le voit donc s'emparer sur la scène du Théâtre du Châtelet d'une reproduction du boli.
J'entre dans... J'entre dans la case sacrée. Mon cœur bat très fort. Couteau coupe lien poli.
François Sauveur, donc, qui incarne Michel Léris au Théâtre du Châtelet dans ce spectacle Le vol du Boli. Comment, justement, cet événement historique est devenu, sous votre plume, Abderrahmane Cissako, le point de départ de cette opéra?
Alors, moi, je suis un peu comme Fatoumata, hein, je ne vais pas dans ces musées-là où il y a des objets africains. J'ai beaucoup de difficultés de les voir, non seulement emprisonnés, morts quelque part aussi, et toujours dans une ambiance assez froide. Donc c'est pas l'endroit préféré, voilà. Mais je suis allé quand même parce que c'était autour de Léris et j'avais vu que le livre L'Afrique fantôme était ouverte, mais pas à cette page, parce que je connais bien L'Afrique fantôme. C'était pas ouvert à la bonne page pour moi, parce que la bonne page, c'était exactement ce qu'on vient d'écouter, le remords de Léris, et c'est ça toute sa grandeur. Comment il nous raconte sa stupeur, son dégoût de ce qu'il a fait. Et que la colonisation, c'est ça aussi. C'est des parcours de gens, de personnes, qui ne sont pas forcément des gens à qui il faut couper des têtes, parce que non, c'est une aventure humaine. Et dans L'Afrique fantôme, on ressent cette aventure humaine. Et pour moi, il fallait que Léris soit...
Le point de départ de cet opéra.
Voilà, toujours comme un prétexte, hein, parce que les points de départ, oui, sont souvent des prétextes.
Oui, une fenêtre, et après, il faut qu'on s'engouffre à l'intérieur. Voilà,
après, on construit autour de ça ce que j'appelle le propos de cette pièce-là, qui est de dire que nous avons eu une rencontre dramatique avec l'Europe, parce qu'elle s'est faite dans la violence, c'était tragique parfois, et que c'est important d'évoquer le passé dans ce sens-là, et de rappeler, ce qui n'a pas été facile. Et je pense que sans cela, il est difficile de construire un beau présent et un bel avenir.
Mais ce passé, il est présent dans l'actualité, parce qu'il se trouve que demain, 6 octobre, les députés français vont examiner un projet de loi qui vise à restituer 26 objets des collections de ce même musée, le musée du Quai Branly, à la République du Bénin. Qu'est-ce que vous en pensez, l'un et l'autre, Abderrahmane Cissako? Il faut s'engager dans un processus de restitution systématique des objets aux pays africains dont ils proviennent?
En fait, déjà que de statuer sur le fait de restituer, donc c'est une forme de reconnaissance, hein, de ce qui a été fait, de ce qui a été pris. Et après cela, moi j'ai le sentiment, ça va pas plaire à beaucoup de gens, hein, qu'aujourd'hui, ce qui compte, c'est de créer quelque chose qu'on peut tous partager, qu'aujourd'hui que l'humanité doit partager les choses. On ne doit pas reprendre des choses pour le garder pour soi.
C'est-à-dire
il faut inventer ce musée.
Inventer un objet de partage.
Absolument, voilà. Inventer le musée qui circule peut-être.
Et donc Fatoumata Diawara, arrêter d'opposer l'Afrique et l'Europe.
Je suis totalement consentante, oui. Si on récupère ces objets, il faut continuer à les partager au reste du monde, oui.
Et donc l'important, c'est pas l'objet en lui-même, c'est la façon dont on le présente, la façon dont on le rend disponible.
Oui, bon, je pense que bon, il y avait 26 objets qu'on rend bon sur des milliers, donc c'est certainement symbolique, hein. Donc on est vraiment dans le symbole.
Mais ça peut être le début d'un processus.
C'est le début d'un processus, mais il faut que dans ce processus, à mon avis, qu'il y ait une vraie réflexion de part et d'autre, de dire comment on peut partager ces objets-là, comment on peut les voir, comment on peut, parce que aujourd'hui, vous savez, et le virtuel, c'est pas rien, c'est voilà. C'est presque, certaines choses sont matérialisées de cette façon-là. Et je pense que c'est important. C'est important pour une autre raison. Je pense qu'un objet dans un musée, c'est un regard qui appartient à une culture aussi. Voilà, ces objets-là sont là, beaux par leur forme, mais un beau lit qui a été arraché d'un lieu, il cesse de vivre. En tout cas, dans sa mission première. Alors, s'il faut l'amener dans les mêmes conditions et les déposer sur les mêmes stèles, sous la vitre, dans le pays où il a quitté, est-ce que c'est ça? C'est ça le vrai symbole? Est-ce que c'est ça le vrai combat? Je pense que c'est qu'il faut déjà, dans nos pays respectifs, qu'on enseigne la valeur des choses, de ces choses-là, de ces objets, parce que les gens ne sont pas très au courant. Il n'y a pas dans les écoles une éducation à l'art. Quand on va à Bamako, c'est un très beau musée, mais il est vide. Très peu de gens y vont quand même. Hein. C'est le voyageur de passage qui va y aller. Ils sont deux ou trois. Donc, il ne faut pas, dans cette forme de révolte, moi je comprends la révolte, de restituer des choses, mais il ne faut pas que ça soit un acte et de dépossession, même si c'est symbolique, même si ça n'appartient
pas. Thomas Diawara.
Non, c'est vrai ce qu'il dit, Abdraman, parce que nous, on a un autre rapport avec ces objets-là, qui est le rapport de vivre le quotidien avec eux. Hein. On n'a pas ce rapport de musée et tout ça. Donc peut-être qu'il faut, si ces objets retournent au pays, il faut qu'on essaie de trouver une maison, un endroit où on peut effectivement les partager avec d'autres personnes. Peut-être pas perdre totalement leur valeur, parce que peut-être qu'eux, ils seront contents de retourner à la maison et de retrouver la famille, d'être en contact avec les gens et comme ça se passait dans le passé. Mais il faut trouver un équilibre aussi, de ne pas les enfermer, quoi. Qu'ils ne soient pas enfermés, que ce soit personnel. Hein.
Tout à fait.
Des nouvelles sur RFI avec Fatoumata Diawara et Abderrahmane Sissako pour le vol du Boli, spectacle à découvrir les 7, 8 et 9 octobre au Théâtre du Châtelet à Paris. Musique composée par Damon Albarn, musique qui se veut une métaphore du Boli, hein, de son âme, de tout ce qu'il infuse, de tout ce qu'il transporte. Alors Damon Albarn, vous commencez à bien le connaître, hein, Fatoumata Diawara. Vous avez fait un featuring avec son groupe Gorillaz.
Gorillaz qui sort 26.
Voilà, il n'y a pas très longtemps. C'est un passionné de musique africaine, un passionné de musique malienne notamment. Il a sorti d'ailleurs en 2002 un album intitulé Mali Music. Ça fait des années qu'il travaille avec des musiciens d'Afrique de l'Ouest. Est-ce qu'il est parvenu à saisir l'âme musicale africaine?
Ah, ça c'est une grande question. C'est à lui de répondre, ça je dirais.
Mais quelle oreille est-ce que vous portez sur son travail, justement?
Moi, l'oreille que je porte à son travail, tout ce que je peux dire, c'est qu'il respecte ce qu'il l'entend ou ce qu'il reçoit de la musique mandingue. Il sait qu'il ne pourra jamais jouer ou exécuter la musique malienne comme tant que telle, mais son admiration est tellement pure et respectueuse que cela vaut tout pour moi.
Mais justement, Abderrahmane Sissako nous expliquait que quand il était passé le voir, il avait expliqué qu'il ne se sentait pas légitime pour porter tout seul un regard africain. Vous en pensez quoi?
Parce que certains vont l'a fait appel. C'est voilà. Pourquoi il a fait appel à Mamadou Diabaté, qui est l'un des plus grands joueurs de kora aujourd'hui de sa génération. Baba Sissoko, qui est l'un des plus grands joueurs de Tama et de Ngoni. Lansana, et voilà, moi qui suis, je suis leur sœur, hein, Abderrahmane. Mmh. Voilà, ça fait longtemps que on travaille ensemble avec Abderrahmane depuis que j'ai mes 20 ans. Et Abderrahmane, ça fait maintenant 12 ou 13 ans qu'on travaille, enfin, dès mon album, je vais dire. Donc, ils m'ont fait appel pour compléter, voilà, une voix féminine, quoi, pour cette aventure.
Mais quand Damon dit ça, je pense que c'est aussi une forme d'humilité, hein. D'humilité, de respect, de ce qu'ils pensent ne pas connaître totalement. On ne connaît rien totalement, même nous-mêmes, nos cultures.
Yeah. Mais est-ce que ce n'est pas aussi une façon de se protéger, d'accusation, d'acculturation? C'est un mot qu'on entend de plus en plus lorsqu'un créateur non africain parle de l'Afrique.
Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'il aurait pu dire « Ouais, ça fait 20 ans que je vais au Mali, je connais la musique malienne, je fais ma version. » Et personne ne l'aurait critiqué, je pense.
Oui, je pense qu'il aurait fait à sa façon. Un artiste peut s'approprier l'univers qui lui correspond, qui lui convient. Ouais. C'est la définition même d'un artiste. Un artiste n'a pas une identité précise. Il est au-delà des frontières et c'est ça qui est important.
Tirer des nouvelles.
Abderrahmane Sissako et Fatoumata Diawara pour le vol du Boli qui démarre après-demain et pour 3 soirs au Théâtre du Châtelet à Paris, un spectacle donné en 4 langues, hein, le français, l'anglais, le bambara et le lingala. Les artistes passent d'ailleurs d'une langue à l'autre. Il y a évidemment le surtitrage pour tous ceux qui ne maîtrisent pas les 4, ce qui fait quand même beaucoup de monde, moi en particulier, Abderrahmane Sissako. Il y a une langue ou il y a des langues sur le plateau du Châtelet ?
Il y a des langues et puis aussi les choses sont chantées. Parfois une chanson n'a pas besoin vraiment d'être sous-titrée. On le fait pour le confort du spectateur aussi. Hein. C'est l'émotion qu'on cherche. Et bien évidemment, parce que comme disait Fatoumata, Damon a amené des gens différents, des Maliens, mais aussi des Congolais. Jupiter Bukonji, avec sa voix. C'est vraiment un grand monsieur. Et ou Borina aussi, qui est un Congolais, Makapa, et qui a une voix extraordinaire. Et voilà. L'art, c'est ça, c'est mettre les gens ensemble qui peuvent toucher par leur voix, par leur corps aussi, parce qu'il faut la citer, il y a la chorégraphe sud-africaine et Mamela Nyamza qui est venue avec son expérience sud-africaine, avec ses compétences, et donc c'est un spectacle qui se fait à plusieurs mains.
Voilà, c'est un spectacle choral, vous avez beaucoup travaillé dans... Oui, Fatoumata
Diawara. Un mandingue universel.
Un mandingue universel. Alors justement, j'ai vu que vous avez beaucoup travaillé en atelier. Alors, comment ça s'est passé concrètement? Ça veut dire quoi, travailler en atelier?
C'est aussi pour l'alchimie. Je pense que ce soit Damon Albarn ou Abderrahmane Sissako, ce sont des personnes qui travaillent avec de l'énergie. Je pense qu'il y avait besoin de faire un casting dans le temps, prendre le temps de vraiment trouver l'énergie.
Donc chacun se nourrit de l'autre, chacun peut apporter ses idées, il y a une confrontation permanente.
Mais oui, vous savez, dès que deux personnes s'assoient ensemble, ou trois, il y a quelque chose qui naît forcément, de l'échange, de la rencontre, et les ateliers ont permis, effectivement, de chercher. Et Damon, c'est quelqu'un qui improvise beaucoup, c'est sa façon de faire de la musique aussi. Hein. On voulait chercher au moins le temps juste,
Pour fixer
et raconter ce spectacle.
Et donc vous avez écrit Damon Albarn la musique et vous le livrez en même temps de concert ou les choses se sont succédées? Comment ça s'est passé?
Non, en fait, moi étant metteur en scène, mon rôle c'était aussi d'écrire le livret pour dire ce qu'on veut raconter.
Donc c'était l'étape de base.
Ça, c'est l'étape de base.
C'est parti de là.
C'est parti de là.
C'est parti donc des mots Et ensuite, la musique
mais avant
est arrivée.
Les mots, et ces mots ont été écrits par Charles Castella d'ailleurs et moi, mais avant ces mots, ce qui a été formidable, Damon et moi, on a fait un voyage ensemble au Mali. Parce que c'est important quand on ne se connaît pas, quand deux personnes veulent s'engager dans un projet pendant 2 ans, il faut se connaître. Mmh. Et là, j'ai vu vraiment, j'ai vu un homme passionné d'un pays, pas que la musique, hein. Il a ses amis, il a beaucoup d'amis là-bas, il se sent bien là-bas.
Il parle un peu bambara.
Voilà, il parle un peu bambara et tous les jours, on déjeunait, on dînait, on racontait ce que peut être ce vol du Boli. Et on partageait.
Du théâtre du Châtelet, il y a un chœur féminin, il y a un chœur masculin, hein, avec des chanteurs de musique ancienne, des chants polyphoniques qui font penser au Moyen-Âge, 13e siècle, hein, je
crois. Médiéval, oui.
Absolument. Médiéval, c'est incroyable. Comment est-ce que la mayonnaise entre cette musique du 13e siècle et la musique mandingue, singulièrement la musique malienne qu'on évoquait à l'instant, comment cette mayonnaise-là peut prendre, Abderrahmane Cissé?
En fait, d'abord, c'est venu de Damon. Hein, c'est Damon qui m'a dit, ce serait bien qu'on essaie un ancien chœur et médiéval parce que c'est on entend rarement aujourd'hui est-ce qu'on peut essayer et là on a cherché 5 choristes et bien évidemment nous on voulait que cette histoire se raconte à deux en fait. Donc, je trouve très important qu'il y ait un chœur africain, mais qu'il y ait un chœur européen qui, au final, disent la même chose. Voilà, qui, au final, rejette l'horreur, rejette, mais chante la beauté aussi.
Oui, une forme de communion par la musique, Fatoumata Diawara.
Et les ateliers ont permis ça. Donc, vous parlez d'ateliers.
Oui.
Et, bien avant les ateliers, c'est que je voulais dire, dès qu'on était à Bamako, qu'on a pensé au projet, tout ça, la première personne que Damon voulait, avec qui Damon voulait travailler, c'était Fatoumata.
Ah, c'est vrai. Moi, je pensais que c'était vous qui étiez allé la chercher parce que vous travaillez ensemble depuis longtemps.
C'était Abderrahmane d'abord, mais après Abderrahmane fut ainsi de c'était Abderrahmane d'abord.
Disons, on voulait tous les deux.
Abderrahmane aussi voulait.
On voulait tous les deux et ça c'est magnifique parce que je me rappelle aussi hein et sur Timbuktu Fatoumata a été d'une présence extraordinaire très généreuse aussi qui est venue à Walata où on tournait de très loin je pense que tu étais en Italie voilà pour arriver c'était difficile c'était elle est venue et là pendant 2 semaines on a travaillé ensemble et c'était magnifique c'est donc magnifique. Elle a donné et l'écrivait ces chants, c'est pas moi qui les écris. Hein.
Oui.
Les situations, même je volais des situations de répétition qui sont devenues des scènes du film.
C'est vrai.
C'était pas vrai. Des scènes écrites,
c'est
la
vrai.
Scène de la musique.
C'est vrai.
Quand je t'ai vu répéter avec... C'est
bon,
ça qui
il y a eu Timbuktu en 2014, il y a eu Ni Brune Ni Blonde en 2010 hein, aussi,
oui,
Fatoumata Diawara. C'est une aventure au long cours hein, que vous menez avec Abderrahmane Cissé.
Et vous savez, j'ai une histoire avec Abderrahmane, j'ai jamais raconté cette histoire.
Eh bien, allez-y, c'est le moment.
C'est que juste avant de quitter ma famille, tu sais, moi je me suis enfuie un jour, hein, je suis partie du jour au lendemain, Et il a été l'un des dernières personnes, l'une des dernières personnes à qui, on va dire, il a été aussi mon moteur pour, enfin, il m'a donné ce souffle-là de prendre aussi mon envol, parce qu'il était venu me chercher pour le film Erema Kono à Bamako. Et moi, j'avais pas encore 18 ans. Enfin, j'avais 18 ans, mais j'avais pas encore mes 19 ans. Mmh. Et il était hors de question. Ma famille avait dit non, tu pouvais pas travailler avec cet homme. T'es trop jeune et tout ça.
Alors que tu avais été sublime dans le film de Shekoumar. Dans le film de Shekoumar.
Voilà,
avant,
j'avais fait déjà pas mal de films. Mmh. Mais c'était l'âge de se marier. Voilà, c'était là. Je devais me préparer
pour.
Voilà, il y avait d'autres priorités. Mmh. Donc, quand j'ai pris ma fuite, c'est que je suis partie avec, j'ai voyagé avec cette douleur-là quand même. Mmh. L'envie de... C'est comme si c'était un échec pour moi de ne pas travailler avec Abdraman. Et que... Comme si quelque chose ne s'était pas terminé, quoi. Comme si j'avais ouvert une porte et qu'il s'était jamais... La frustration pour moi était énorme. Du coup, de le recroiser sur le cours de mon chemin, ça m'étonne pas parce qu'il fallait qu'on raconte quelque chose ensemble. Moi, enfin...
Et tu te rappelles...
C'était très, très dur, cette aventure.
Et c'est vrai, c'est exactement comme ça. Hein. Et moi, j'avais cette frustration aussi parce qu'on n'a pas voulu que tu joues
c'est
dans
horrible.
Ce film-là. On est passé à autre chose, bien évidemment. Moi, j'ai fait En attendant le bonheur, Bamako, le film Bamako. Et je me rappelle... je suis venu te voir, c'était Place de la Bastille.
Oui.
Je vivais à Paris à l'époque. On a pris un thé ensemble. Je t'ai dit, je préparais Timbuktu. Je dis voilà, moi je suis sur un nouveau film.
Il faut achever ce qu'on a.
Il faut sans savoir,
aller au bout,
sans
quoi,
savoir quel c'est... rôle, sans savoir quoi. Et Fatou m'a dit, ben moi, tu peux pas aller sans moi.
Ah non, c'est sûr. Il fallait terminer ce qu'on avait commencé.
Fatoumata Diawara sur le plateau du Théâtre du Châtelet et dans VMDN sur RFI. Elle est avec nous aux côtés d'Abderrahmane Sissako et il nous présente cet opéra Le vol du Boli que l'on peut donc découvrir au Théâtre du Châtelet à Paris cette semaine les 7, 8 et 9 octobre plus précisément. Alors vous vous connaissez très très bien tous les deux, seulement qu'on puisse dire. Fatoumata Diawara, est-ce que le cinéaste et le metteur en scène Sissako dirigent de la même façon?
Moi je pense que oui, peut-être... lui, personnellement, c'est certainement différent pour lui. Mais pour moi, c'est le même Abdramane que je connais, et dans la concentration, dans la recherche, dans la spontanéité. Je retrouve la même chose que...
Comment est-ce qu'il construit une relation de confiance sur un plateau entre lui et les artistes avec lesquels il travaille?
Mais ça se fait naturellement chez lui. Ça se fait très naturellement. Il sait ce qu'il veut, donc c'est assez clair en fait. On ne tarde pas trop sur les idées. Donc quand il arrive avec une idée, c'est assez clair. Donc que ce soit dans le cinéma ou dans la direction du cinéma ou dans le théâtre. Parce qu'il n'y a pas une grande différence. Je ne pense pas que c'est trop différent.
Alors je vais poser la question à Abdramane Cissako. C'est le même métier de mettre en scène pour la scène et de mettre en scène pour l'écran?
Comme dit Fatoumata, ce n'est pas si différent que ça. Mais ce qui a été pour moi une chance, hein, c'est d'avoir quelqu'un comme Dorcy, Gamba, qui est un dramaturge.
Et qui a travaillé à la mise en scène avec
absolument,
vous.
Et donc lui, il a une forme d'aisance dans le théâtre. Il sait cours, jardin, il faut sortir par là, des choses comme ça, qu'il n'y a pas de cours de jardin dans le cinéma. Hein.
Oui.
Donc j'étais très content d'avoir quelqu'un comme lui. Et puis aussi, il a une sensibilité qui est proche de la mienne, ou ma sensibilité est proche de la sienne aussi, et donc ça a facilité beaucoup de choses.
Mais il y a aussi du cinéma dans le spectacle, hein. Il y a notamment un film qui passe sur un écran, une tuile hein, qui descend, on va pas révéler tous les détails, mais il y a aussi des images, il y a des écrans aussi un peu plus petits qui descendent effectivement des cintres et qui diffusent des images d'archives ou des images un peu plus contemporaines, parce que ce spectacle, Abdramane Cissako, c'est aussi le spectacle de la transdisciplinarité, quoi. C'est-à-dire il y a le cinéma, il y a la danse, il y a la musique, il y a la chanson, il y a aussi toute la dimension plastique, les costumes, une partie d'ailleurs majeure des costumes ont été faits avec des objets de récupération. C'est un spectacle total que cet opéra.
Vous savez, quand on veut raconter quelque chose, on utilise les moyens qui sont là, c'est-à-dire l'art de façon générale, c'est-à-dire la chorégraphie, pour moi, elle était importante dans ce spectacle. La scénographie, elle est importante, parce qu'on raconte des choses par la scénographie. Tout était important. Et l'image aussi. L'image, bon, pas que je la connais mieux qu'autre chose, hein, mais c'est important que l'image soit là. C'est quelque chose qui est un peu hybride. Hein, c'est un opéra, mais avec une forme d'ouverture.
Avec une vraie recherche esthétique.
Esthétique,
aussi.
Absolument, absolument. Et donc, bon, je suis plutôt satisfait de cette liberté qu'on m'a donnée aussi, parce qu'on ne m'a pas dit tu fais un opéra comme ça et pas comme ça. Donc on m'a dit fais un opéra. Et comme je sais que je ne suis pas seul, que je suis avec Edda Monalbán qui compose la musique, et des acteurs formidables comme Jupiter Bokonji ou François Sauveur ou Fatoumata Diawara.
Alors justement, Fatoumata Diawara, vous jouez successivement plusieurs rôles, hein. Donc il y a la reine mère hein, de la mère de Sunetia Kessa, il y a la griotte, il y a une magicienne, la patronne du bar, le maquis. Vous passez comme ça de rôle à une autre. Interpréter un rôle dramatique et interpréter une chanson, est-ce que c'est le même travail?
Non.
Quelles sont les différences?
La différence, c'est que quand tu interprètes un personnage, tu dois te dédoubler. Tu dois penser à une... Tu te dédoubles, tu crées le personnage dans ta tête et tu essaies de porter comme un habit ce personnage. Voilà. Quand je suis patronne de bar, je marche différemment.
C'est-à-dire que c'est la fiche d'identité, en quelque sorte, du personnage qui dicte votre jeu, votre façon de vous tenir
exactement.
Sur scène, votre façon de chanter aussi, parce que la voix, elle n'est pas exactement la même.
Le
aussi.
Chant, par contre, que ce soit à l'opéra ou ailleurs, je rentre aussi, je m'enveloppe aussi dans un autre corps qui est totalement différent, mais qui est plus proche de ma personnalité. Là, je fais face à moi-même et je chante.
Et le costume, c'est un élément qui aide à rentrer dans un personnage, parce que c'est très important, évidemment, pour que le spectateur comprenne de qui il s'agit. Mais est-ce que pour vous, Fatoumata Diawara, c'est aussi une seconde peau qui vous permet justement d'interpréter et d'incarner?
Les costumes, c'est certainement... Les costumes pour les personnages, oui. Mais pour le chant, non, ça c'est entre moi et moi-même. Ça, c'est très personnel. C'est vraiment un autre rapport.
Alors, il y a tout un travail sur les lumières, sur les couleurs aussi. J'imagine qu'elles n'ont pas été choisies au hasard, parce que ces tableaux qui sont chantés et chorégraphiés et qui s'enchaînent évoquent. Alors, il y a énormément de thématiques, on n'en a pas encore parlé, mais dans le spectacle, puisqu'on parle de la colonisation, on parle de l'esclavage et de la traite, avec une scène absolument magnifique sur un bateau. On a entendu tout à l'heure la question des tirailleurs, la question des guerres, des conflits dans lesquels les Africains de l'Empire colonial ont été embringués, ont payé un lourd tribut. Il y a le pillage des ressources, il y a la pollution. On n'est pas du tout, Abderrahmane Cissako, dans une narration linéaire ou chronologique. Vous avez plus fonctionné en fait par thème, par enchaînement de tableaux, que dans le récitatif pur.
Oui, et de façon apaisée aussi, parce qu'il y a beaucoup de sujets, mais on s'est dit tout de suite qu'il ne faut pas que ce spectacle soit une tribune qui crie.
Pourquoi ? Parce que le cri, c'est moins efficace que la douceur ?
Ah, complètement.
Bien sûr.
Complètement. Quand on veut dire quelque chose à quelqu'un, il ne faut pas lui crier, ça c'est sûr. C'est mieux de lui chanter, chuchoter.
Mais c'est vrai que tout ce que vous décrivez dans le spectacle pourrait générer, et génère encore aujourd'hui, une vraie forme de colère chez nombre de créateurs africains. Oui. Et c'est pas du tout la voie que vous avez choisie.
Mais il faut transformer. Moi, je pense que les colères, il faut les transformer en autre chose. Sinon, on n'avance pas.
Non. En fête et en poésie.
Ah oui, tout le temps. Voilà. Tout le temps. Et non, quelqu'un qui est en colère n'est pas fort. Il est plus faible. Il peut trébucher plus facilement. Tandis que quand on arrive à poser sa colère, pour juste dialoguer, échanger avec l'autre. Et puis cet autre, c'est aussi l'histoire du passé. Quand on chante aujourd'hui, quand on parle du Boli, c'est pas, on n'accuse pas que celui qui est assis en face dans la salle, c'est pas ça. C'est on échange, on partage les choses.
Oui, mais est-ce que vous avez quand même voulu donner mauvaise conscience aux spectateurs parisiens qui regardent le spectacle ?
Non, il y a toujours une petite envie d'être compris, voilà. C'est-à-dire qu'il faut comprendre parfois le désarroi de l'autre, la colère de l'autre. Il faut comprendre ça et c'est important parce que c'est un acte politique et cet acte politique peut permettre à certains de prendre conscience et aussi de faire partie du changement et d'apporter un changement dans leur quotidien.
Peter Bokonji, qu'on entend en ce moment, silhouette dégingandée, chapeau sur la tête, qui ouvre le spectacle à travers un prologue, Abderrahmane Cissako, avec sa voix grave, sa très belle voix. On est au Congo, dans un garage, il y a des portières de voitures sur les murs, il y a des jerrycans, il y a des bouteilles, il y a des pneus. Qui est-il, cet homme qui nous fait rentrer dans votre histoire ?
Ah ben, le personnage de Jupiter, c'est l'homme de la rue, dans le sens ceux qui se battent au quotidien, qui sont dans l'informel, qui essaient de se débrouiller, qui nourrissent une famille comme ça en gagnant très peu, et qui restent dignes. C'est pas eux qui volent leur pays, c'est pas eux qui trichent. Voilà, on vole sur leur dos et voilà. Donc pour moi, c'est très important d'avoir un personnage comme ça, mais aussi de montrer que ces gens-là ont une vraie conscience de ce qui leur arrive.
Et c'est lui un peu l'intercesseur, finalement, entre ce qui se passe sur le plateau et les spectateurs dans la salle. Il regarde
et il est conscient de la crise qu'il vit dans son pays. Il est conscient de la responsabilité des politiques. Il est conscient de ce qui se passe dans le monde. Et ça, je pense que Jupiter porte magnifiquement ce personnage-là, et magnifiquement il ouvre la pièce sur l'Empire mandem comme ça. C'est aussi pour dire que l'Afrique est multiple.
Oui, parce que c'est vrai qu'on passe dans la pièce du Congo au Mali, il y a une référence à la Guinée. Alors en plus, historiquement, le mot Guinée est beaucoup plus englobant que la Guinée d'aujourd'hui. On passe effectivement d'un pays à un autre, de l'Afrique centrale à l'Afrique de l'Ouest, on y revient, etc. Pourquoi avez-vous choisi de focaliser justement sur ces deux pays-là que sont le Mali et le Congo?
Alors, donc, le Mali, c'était pour montrer que dans le passé de ce continent, il y a plusieurs empires, hein, il n'y a pas seulement l'empire du Mandingue, il y a l'empire du Ghana, l'empire du Sokoto, voilà. À travers l'empire, commencer une pièce, un spectacle par l'empire, c'est montrer qu'il y avait une beauté, voilà, qu'il y avait quelque chose.
Une dignité
dans le passé.
Oui, c'est vrai que le premier tableau est vraiment un tableau d'une majesté absolue.
Qu'il y a une rencontre brutale avec les canons, etc. C'est la vérité. Donc pour moi, c'était important de montrer un empire africain comme ça. Mais le Congo, c'est aujourd'hui. C'est quand même un paradoxe terrible, hein. Et un pays aussi riche,
là. Et qu'il y a une longue tradition de pillage derrière lui, de Léopold II.
A commencé par Léopold II, effectivement.
Le roi des Belges. Avec sa colonie personnelle à l'époque, les mains coupées, pour les travailleurs de caoutchouc, jusqu'au coltan aujourd'hui.
Exactement. Donc, pour moi, c'est important de rappeler ça. C'est important de dire que derrière tout ça, il y a, aujourd'hui encore, il y a une industrie qui pille pas seulement l'Afrique. On sait que le concept des multinationales, c'est un concept vraiment du profit permanent. Et donc ce profit appauvrit les autres, les fragilise. Et c'est ça, pour moi, le Congo est un symbole dans ce sens-là.
Au final, Fatoumata Diawara, pour vous, qu'est-ce que ce spectacle dit de cette relation si complexe entre l'Afrique et l'Europe? Comment est-ce qu'elle doit évoluer, cette relation? Dans quel état d'esprit est-ce que vous sortez de scène?
Oh là là, il y a une prise de conscience, non seulement de notre part, hein, nous qui sommes sur scène aussi, on apprend des choses, et puis on voit aussi dans la globalité, voilà, comment le monde fonctionne, hein, comment ça évolue, parce qu'il y a le passé aussi, il y a aussi le présent, comme vous parlez de, comme vous avez dit par rapport au plastique. Ça, c'est de l'actualité.
Oui, parce donc, que certes, il est saisissant, ce tableau.
Moi, c'est que je retiens, personnellement. Je ne sais pas ce que les autres retiennent, mais ce qui est sûr, il faut que... Certes, il raconte le passé et tout ce qui se passe aujourd'hui avec le Congo, tout ça. Mais la partie pollution, qui est les plastiques qui sont sur la scène et tout ça, ça interpelle tout un chacun. À ce moment, il y aura, c'est pas l'Afrique. Même si l'histoire commence à partir de l'Empire du Mandingue, ça se termine dans un monde qui est un monde universel. C'est l'histoire de partout.
Universel.
C'est l'histoire de Damon, c'est l'histoire d'Abdraman, c'est l'histoire de Fatou, c'est l'histoire de tout le monde. Et que il est temps qu'on se donne la main pour pouvoir sauver finalement cette planète qui est remplie de plastique. Donc, où allons-nous? Pour moi, c'est ça la question. Quand tu regardes le spectacle, tu dis « Ok, où allons-nous ?»
Voilà, une belle conclusion, effectivement. Moi, je pense, hein. Il n'y a que 3 dates, Abderrahmane Cissako, 7, 8, 9 octobre.
Oui, COVID.
C'est pas beaucoup après notre travail.
Mais il y avait 18 dates qui étaient prévues, mais comme vous voyez, la situation, elle est
compliquée
un peu partout. Et donc, ils ont préféré faire ces 3 dates et reporter pour la saison 2021-2022.
Donc avec une vingtaine de dates d'ores et déjà.
22.
Merci infiniment à tous les deux d'être venus nous voir, Fatoumata Diawara.
Merci.
Et Abderrahmane Cissako. Et donc rendez-vous pour ceux qui le souhaitent au Théâtre du Châtelet les 7, 8 et 9 octobre. Merci.
Vous m'en direz des nouvelles. Sur RFI.
Également de l'actualité musicale parisienne, la 15e édition du festival La Voix est libre qui s'est ouverte jeudi dernier au Théâtre de la Cité Internationale. Elle affiche Collapsus, une collision fertile entre les textes souvent inédits de l'écrivain français Alain Damasio et le savoir-faire d'artistes venus du cirque, de la danse, de la transe et des musiques libres. Reportage pour VMDN, signé Hortense Vol.
Bonsoir, vous connaissez le festival?
Je connais pas du tout le festival, mais je connais Adamasio, c'est pour ça que je viens du coup.
Vous avez pas cherché à savoir
Pas du tout en fait, moi j'adore Adamasio, du coup je me suis dit il faut que je fonce, il faut que je le vois. Il faut absolument que j'entende hurler, j'ai besoin d'entendre hurler, c'est important.
Vous savez que du coup vous entrez dans une zone de libre étrange?
Ah non, je sais pas, c'est quoi ça le libre étrange?
C'est un territoire aux frontières indéfinies où la production d'infini l'emporte sur le produit fini. Donc beaucoup d'anthropologues s'écharpent déjà à ce sujet.
Blaise Merlin, directeur artistique du festival La Voix est libre.
Le plaisir de partager ces richesses sous-exploitées, que sont celles de l'âme, de la spiritualité, de la musique, de la poésie.
Il existe une erreur sur le mot étranger. Ce n'est pas un nom, c'est pas non plus un adjectif. En réalité, étranger est un verbe. Un verbe d'action transitive qu'on utilise pour mettre à distance ceux qui sont pourtant comme nous, pour les éloigner de cette évidence qu'ils sont comme nous, qu'ils sont nous.
Je suis Alain Damasio, écrivain de science-fiction, scénariste et puis maintenant performeur aussi.
Je t'étrange. Tu m'étranges.
Nous étranges.
Vous nous étrangez. Vous nous étrangez. Ils s'étranglent.
Moi, voilà, il faut rendre grâce quand même à Blaise Merlin de son énergie, de son enthousiasme, de son inventivité aussi. C'est lui qui a eu l'idée d'amener Sarab, ce groupe oriental extrêmement puissant en jazz rock. C'est lui qui a eu l'idée des cordes, c'est lui qui a eu l'idée des danseurs. Moi, ce que j'aime bien, c'est que voilà, on part d'un texte qui est la colonne vertébrale du spectacle. Mais ce texte, il se déploie dans un corps, il s'incarne dans un corps, il s'incarne dans un circassien, il s'incarne dans les cordes de violoncelle, dans les cordes de la guitare de Péchin, il s'incarne dans le cri de Mood. Voilà, tout ça se déploie autour d'un axe qui reste un axe textuel, donc qui donne du sens. Mais le sens sans... Sans la sensation, c'est insuffisant, quoi. Donc là, ça déploie ça.
J'aime me dire qu'on a une porte entre les deux épaules, ouverte à la naissance, et que même face au cri, face au con, face aux peurs, face au miasme, elle doit rester toujours ouverte, au moins entrebâillée, cette porte.
Savoir crier, c'est savoir sortir quelque chose d'absolument crucial sur ce qu'on vit aujourd'hui et qu'on peut pas réverbérer. Voilà, c'est-à-dire qu'on subit un ultra-capitalisme extrêmement mortifère, on subit des conditions en ce moment d'étouffement avec le Covid qui sont démentes, et t'as envie de crier et avoir la chance de pouvoir le faire sur une scène, mais c'est un bonheur intense. Et je comprends cette idée de venir voir quelqu'un crier, de crier avec lui, de crier à travers lui.
Sors de tes gonds. Sors de tes gonds. Sors de tes
gonds. Reportage d'Hortense Vol dans un instant, le journal sur RFI. Bravo à nos gagnants du jeu de jeudi dernier, Exocène Kodia de Brazzaville et Chicha Yumba de Lubumbashi. Ils recevront le livre de Jean-Marie Blas de Robles, Ce qu'ici-bas nous sommes, paru aux éditions Zulma. La bonne réponse était Adjassan. On se retrouve demain avec l'écrivain Sébastien Switzer pour son roman La Peste, paru chez Albin Michel, un livre que vous pourrez également gagner. Dans un instant, l'info sur RFI et vous m'en direz des nouvelles.